Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Déclic. Nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux.
Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. On est ravis de vous accueillir pour cette rentrée 2021 pour la troisième saison de nos podcasts. Et pour ce premier épisode du Déclic de la saison 2021-2022, on a reçu Laureline. Laureline est directrice de l'école Join Hero. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours professionnel et son parcours de vie, elle qui a plaqué un stage dans une grande maison d'édition pour un travail à Ho Chi Minh Ville au Vietnam alors qu'elle n'avait que 22 ans. Elle nous parle de son parcours, de ses voyages et de comment elle a décidé de se défaire des carcans sociétaux pour suivre son envie de liberté. Et aujourd'hui, dans le déclic, dans ce déclic de la nouvelle saison, saison 3, enfin, oui et non, parce qu'en fait, on avait pris en cours de saison, c'est quand même la saison 3, saison 3 du déclic, on commence par le déclic de Laureline. Bonjour Laureline, comment tu vas ?
Bonjour Juliette, très bien, merci de me recevoir.
Ah bah écoute, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on te reçoit. Pour expliquer un petit peu qui tu es rapidement et comment on s'est connus, alors nous on s'est connus parce qu'on a travaillé ensemble dans le groupe au féminin, mais aussi on a continué à se connaître puisque tu travailles chez Join Hero, l'école du storytelling, école dans laquelle Sophie et moi avons été intervenantes sur notamment la partie podcast en fait.
Tout à fait, d'ailleurs très bonne intervenante.
Ah c'est gentil.
On a hâte de vous réaccueillir pour les prochaines promotions.
Avec grand plaisir.
Et voilà, effectivement, je travaille chez Join Hero, donc ça appartient à Maria School. Mm-hmm. Et j'ai monté cette école en janvier, c'est l'école du storytelling, donc on a podcast, creative writing, tout ce qui touche au pitch aussi, donc c'est comment se raconter.
C'est super, et les formations sont très bien, ça m'intéresse, même moi pour me former, j'étais en train de regarder la dernière fois. C'est très intéressant, si jamais vous êtes en réorientation ou que vous avez envie de vous former sur quelque chose que vous maîtrisez moins dans votre job, notamment un côté créatif, n'hésitez pas, on fait un petit peu de pub pour Join Hero en même temps. Alors, exactement. Oui, bah, vous vous doutez bien que 18h17 ne serait rien sans les chats qui interviennent sans arrêt, notamment le mien. Donc Maïdo est là dans cette saison 3.
Elle très créative.
Elle vous souhaite également la bienvenue. Laureline, je ne sais pas si tu le sais, mais dans chacun de nos épisodes du Déclic, ou presque, en tout cas quand ça s'y prête, on fait un retour en arrière sur la vie de nos invités pour savoir un petit peu ce qui les a menés à avoir ce déclic. D'où viens-tu, Laureline ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. Enfin, la question classique.
Eh bien, ok, bah, je reprends depuis le début.
Je suis née à...
Allez, je suis née... Bah, moi, je viens de Paris, ouais. Pas très originale. Je crois que je t'avais déjà raconté, mais l'anecdote, c'est mon prénom, finalement. Oui. C'est un prénom qui n'existait pas quand j'étais née.
Alors, en fait, ouais, c'est que là, en termes de chronologie, on est juste avant. Mais Laureline va vous raconter l'histoire. Tu sais quoi ? On va garder le suspense.
La surprise,
pour les...
ouais, voilà.
Laureline vous expliquera l'origine de son prénom, même si certains d'entre vous vont peut-être le deviner, dans l'épisode de l'apéro qui sortira la semaine prochaine. Donc, tu disais, tu viens de Paris.
Tout à fait. Alors, tu veux que je te raconte ? En gros, je viens d'une famille en partie. Mon grand-père était marocain, mes autres parents un peu de partout, en fait, en
D'accord.
réalité. J'ai donc grandi dans cette mixité. Et pour tout te dire, ça va peut-être avoir un sens aussi dans mon déclic. C'est une famille qui était finalement assez rigide sur tout ce qui était études. Enfin, voilà, il fallait réussir, etc. Mais en même temps, une famille avec un petit grain de folie.
Ouais.
Où finalement, on était souvent un peu décalé des codes. Donc ça, j'ai adoré. Et voilà, j'ai une grande sœur qui maintenant est pilote de ligne. Donc,
c'est génial.
Ouais.
Ah, elle doit faire partie des rares, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans
ouais.
ce milieu-là, en plus.
Alors, il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes à son époque. Tu sais, ouais. c'est des petites promos quand ils sont pilotes. Je crois que c'était la seule fille de sa promo. et elle me dit que maintenant elle en voit de plus en plus des jeunes qui débarquent, donc c'est chouette.
Mais c'est ouf comme métier. C'est, à chaque fois, c'est des métiers auxquels on pense pas, mais c'est enfin, il en faut quoi. Voilà, mais c'est fou.
Tu
hein.
sais, quand elle était petite, parce qu'à 9 ans, elle voulait être pilote, son instinct, elle a une instinct qui lui a dit bah, tu peux pas parce que c'est pour les garçons, par contre, tu peux être hôtesse de l'air. Et puis ma soeur, bah, ça l'a.
Oui, ça l'a
donc
gonflé,
pendant
quoi.
Longtemps, elle avait sorti ce truc de sa tête. D'accord,
ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'à nous, les filles, on nous dit des trucs comme ça. Enfin,
c'est fou, hein.
Et tu l'intègres et tu te dis, en fait, et c'est que plus tard où tu dis, bah, en fait, qu'est-ce qui m'empêche ? Enfin, c'est pas.
Bah oui, c'est des maths, de la physique et
c'est
de la logique.
Et une très bonne vue, généralement.
Oui, c'est pas mal.
Oui, faut pas être Milouze dans les Simpsons pour devenir pilote de ligne, malheureusement.
Ah, avec les lasers, maintenant, tu peux.
Ah, mais c'est fou. Et du coup, Donc, tu disais que pour ta famille, la réussite. Enfin, je sais pas si c'était exactement la réussite sociale, mais plutôt les études qui étaient importantes.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as fait comme études, toi, du coup ?
Eh bien, du coup, j'ai pas fait ce qu'il aurait fallu faire, parce que c'était plutôt les sciences, etc. Ah. Parce que c'est rassurant. Mmh. Parce que,
être médecin.
Voilà. Bah, oui, il y en a. Mais c'était plus aussi parce qu'il y a une définition où pour être libre, il faut pouvoir faire ce qu'on veut. Et faire ce qu'on veut, souvent, ça nécessite en fait des études, etc. Mmh. Finalement, moi, j'ai toujours été passionnée de littérature, ouais. de philo. Et puis même, je ne le savais pas à l'époque, mais anthropologie, enfin, tous ces
d'accord,
domaines.
Ouais. Toute la sociologie, etc. Exactement. Mots, pardon.
La créativité, enfin, ouais. tout ça, j'adorais. Et du coup, j'ai fait... ça a été compliqué, mais j'ai fait lettres et philo.
Ouais.
C'était pas forcément accepté au départ dans ma famille. C'était fac. À l'époque, je sais pas toi, mais on nous disait c'est les filières où soit t'es prof, soit t'es.
C'est exactement ça. Ouais, voilà, moi j'avais ouais. hésité à faire une fac d'anglais aussi, effectivement. Et c'était en mode bah, si tu veux être autre chose que prof, il faut. Alors en plus, c'est pas du tout une tare de vouloir devenir prof. Enfin,
bah,
personnellement,
oui,
c'était pas
plus.
Mon cas.
Ouais.
Mais effectivement, c'était. On m'a toujours dit, y compris les profs de fac nous avaient dit. En revanche, voilà, si pour tout ce qui est fac d'anglais, français, etc., si vous souhaitez faire autre chose que de l'enseignement, il faut faire un double cursus.
Exactement, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et puis il y avait le truc des débouchés, moi je voulais pas être prof.
Voilà.
Et quand on me disait tu veux faire quoi, j'avais toujours ce truc de j'en sais rien, et c'est quoi ta passion ? Et je disais bah, moi je suis passionnée par la vie, enfin, il y avait mille choses qui me passionnaient.
C'est beau ça.
Et du coup, ouais, mais ça faisait peur à tout le monde,
oui,
je pense.
Bien sûr.
Et du
avec
coup,
cette hippie.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, j'ai fait quand même fac lettres et philo à la Sorbonne. Franchement,
ouais.
en ce moment, je survalorise la fac auprès des plus jeunes.
Ouais.
Je trouve qu'on a tendance à dire faites des grandes écoles,
à dénigrer
etc.
un peu. Ouais, ouais. alors qu'on a, en plus, on a un super enseignement supérieur
oui.
gratuit.
Exactement.
Donc, il ne faut pas oublier que tout le monde déjà ne peut pas accéder à des études payantes. Et en plus, toute étude payante n'est pas forcément une bonne école.
Non,
parce que justement, il y a beaucoup d'écoles qui se sont créées parce que les mecs ont senti le filon. Et tu as beaucoup bah, déjà de trucs qui ne sont pas reconnus par l'État, premièrement, en termes de diplôme. Ça n'empêche, tu peux avoir une bonne formation, mais on est quand même dans un monde où les diplômes comptent. Donc, c'est mieux aussi d'avoir quelque chose qui soit reconnu par l'État. La fac, on a quand même d'excellentes facs. Enfin,
exactement.
C'est...
Parce que tu sais qu'au Canada, donc moi c'était Sorbonne, tout le monde connaît, c'est survalorisé. Par contre, ceux qui venaient d'HEC et SEC, pas toujours. Enfin,
ah ouais.
Il y a plein de pays, ils ne savent pas ce que c'est.
D'accord, ouais. Ah oui, à l'international, bah oui, effectivement,
ouais.
la Sorbonne, c'est...
Ouais, c'est connu tout
ouais,
le monde.
Bien sûr.
Donc moi j'ai adoré mes années fac, je me suis fait des bons copains et... Et puis, bah, naturellement, en fait, j'ai commencé à travailler. Du coup, il fallait choisir. Mmh. Dans les choix, je savais que je ne voulais pas être prof et c'est une vocation. Et moi, je ne l'avais
ouais.
pas. En revanche, on m'avait dit, tu peux essayer journaliste et puis surtout éditrice. Quand tu fais lettres et philo,
ouais.
C'est le top. Et du coup, bah, j'ai tenté. Et puis, rapidement, j'ai été prise chez... en stage, donc je travaillais à côté de mes études.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette expérience ? Alors, quand on a préparé ce déclic, tu me disais qu'en fait, c'est quelque chose que tu faisais en même temps que ta thèse. Donc, c'était un stage, une alternance, comment
c'était
ça se déroulait ?
C'était un stage, exactement.
D'accord.
J'étais en fin de master, en fait. Donc, j'étais
d'accord.
en master 2 qui prépare la thèse. Et alors, moi, j'ai des collègues super là-dessus.
Ouais.
J'ai de la chance. Et c'est... Bah, je dévalorise pas du tout le secteur de l'édition en France, c'est familial, c'est sympa, mais pour le coup, déjà à mon âge, je trouvais que c'était un peu vieillissant.
Ouais.
La place de la femme, je l'ai pas trouvée franchement enrichissante. Et je trouvais qu'on était très monotâche, mais comme pas mal d'entreprises en France, je trouve, où tu as un job et tu dépasses pas, tu sais, tu as vraiment une liste de tâches.
Ouais.
Et ça, très vite, ça m'a un peu fait peur. Quoi.
Surtout dans les grands groupes comme ça, c'est assez politique. Et
oui.
Donc, effectivement, si t'as... moi, ça m'est... avant d'être en freelance, j'ai bossé momentanément dans une boîte, ce qu'on appelle chez l'annonceur, moi, dans mon jargon de la com.
Oui.
Tu as les agences, ce qu'on appelle l'annonceur, c'est directement pour les marques, en fait. Je précise pour les personnes qui ne savent pas. Et effectivement, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais plutôt faite pour être soit en agence, soit indépendante. Parce qu'en fait, il y a des choses très politiques dans les grandes marques. Et donc, quand tu sors un petit peu des clous dans lesquels ton job est, il y a des gens qui peuvent mal le prendre. Parce qu'on va se dire, tu essayes de marcher sur les plates-bandes, tu essayes de me piquer mon boulot, etc. Donc, il y a quelque chose de très politique, notamment dans les grandes entreprises. Je suppose aussi, comme ça peut l'être, dans les grandes maisons d'édition.
Exactement, surtout qu'ils considèrent que c'est des métiers, c'est proche de l'artisanat. Finalement, tu apprends vraiment des tâches. Moi, je voulais toucher à tout.
Ouais.
Je voulais savoir comment on fait un livre de A à Z, tout m'intéresser. Mais finalement, très vite, t'es éditrice, donc c'est ton job. La com, j'adorais aussi. Mais tu vois, il fallait vraiment choisir. C'était très scindé.
Ouais. Et très siloté, quoi.
C'est ça. Et du coup, quand tu veux proposer des nouvelles choses, on dit « Ah bah parfait, ça ira au service market. »
Va en parler au service market de ton idée, quoi.
Ouais.
Et ces études, justement, t'en parlais. Est-ce que c'était... Donc les études, tu les as choisies un petit peu par hasard parce que ta passion, ou est-ce qu'il y a aussi une pression familiale de dire « Bon bah ok, si tu veux faire des études de lettres, tu fais des études de lettres, mais tu fais la Sorbonne, etc. » Je reviens un petit peu sur tes études et ce côté un petit peu prestige dont tu nous parlais de la part de ta famille.
Ouais, bah j'avais une grosse pression sur « faut faire une prépa ».
D'accord.
J'ai pas fait Cagne, prépa.
Cagne, il voulait que tu fasses Cagne, Hippocagne, je suppose. Ouais.
Pour faire après normal ou Sciences Po.
Ah oui, ouais, on est... D'accord. On
bon,
est
j'ai rien fait de tout ça. J'ai même pas tenté.
Tu fais le LS ou rien.
C'est ça. Et du coup, finalement, par dépit, je suis quand même rentrée. Moi, j'avais vraiment envie et je t'avoue que c'était pas du tout pas stratégique de ma part, dans le sens où je savais pas ce que j'allais en faire. Je savais juste que j'avais envie de faire des études là-dedans. J'avais envie de faire de l'art, mais pour le coup, ça, on me disait que c'était genre pire que tout. Du coup, j'ai fait lettres et philo et c'est vrai que c'était un peu rassurant dans le sens où c'était la Sorbonne et on me disait, bon, bah, tu feras un doctorat. En doctorat, après, tu peux quand même décrocher... de la recherche ou autre, et là on arrive dans des sphères un peu plus prestigieuses. Et puis même, je me souviens que pendant ma licence, on avait, tu sais, des genres de concours d'éloquence où il fallait construire des textes, et du coup on m'avait dit faudrait que tu fasses Sciences Po. En fait, on avait des passerelles et que j'avais beaucoup plus un profil un peu politique, mais alors moi pas du tout, enfin, c'était vraiment un truc que j'avais pas envie de faire. Et là-dessus, je crois que j'ai quand même bien mené ma barre, qui a toujours resté sur mon intuition.
Sur quelque chose qui te plaisait,
C'est ça.
Et c'était quoi, sur quoi ta thèse exactement que tu préparais ? Donc, je refais un retour en avant sur retour au présent. Donc, tu es en stage, tu prépares ta thèse. Dans quoi tu préparais ta thèse ?
Eh bien, Marguerite Duras.
Ouais.
Ceux qui me connaissent savent que je suis folle de cette écrivaine. Mm-hmm. Je trouve qu'elle est pleine de talent. Quand tu creuses, en plus, tu te rends compte qu'elle était quand même... alors, elle a été très reconnue, hein, mais elle a été aussi victime de beaucoup de misogynie vis-à-vis des journalistes. Et elle avait quand même cette forte personnalité à toujours rester sûre d'elle, renvoyer, balader tous les journalistes un peu misogynes. Mmh. Et c'est une femme qui m'inspirait beaucoup, mais aussi son histoire. Elle a vécu en ex-Indochine, elle a une famille... compliqué qui a fait finalement toute son œuvre littéraire, et j'ai trouvé que c'était le symbole un peu de la liberté. Duras, c'est quelqu'un qui s'est toujours laissé mener par son intuition, qui a jamais été dans la peur du jugement des autres et qui a touché à tout, au cinéma, à la littérature, à la politique. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu.
Mais ça faisait un peu écho à ce à quoi tu inspirais, finalement.
Ouais.
Donc, et donc, en préparant ce déclic, tu me disais qu'en fait, à ce moment-là, tu avais non seulement donc, le stage prestigieux, la thèse qui est prestigieuse aussi, mais aussi tout ce qu'on imagine d'une vie bien rangée, c'est-à-dire, il n'y a pas de mal à ça, hein, bien sûr, encore une fois, chacun mène sa barque comme il l'entend, mais tu avais également... le couple stable, etc. Et tu me disais qu'en fait, tu t'es rendu compte que tu t'emmerdais un peu. Comment tu t'en es rendu compte ? Est-ce que au départ, tu te sentais épanouie là-dedans, ou est-ce que tu faisais aussi un peu ça par pression sociale ?
Je pense que... Alors, j'y réfléchis souvent à cette question. Mmh. Je crois pas que ce soit de la pression sociale. En tout cas, je vivais pas comme une pression, mais par mimétisme social.
Mmh. Oui, c'est une bonne façon de l'expliquer.
Parce que je crois pas avoir été... Enfin, j'étais pas malheureuse. Oui. C'était des choix, finalement, que j'ai fait. Mais tu sais, tout va très vite. Je trouve qu'il y a un moment, où, surtout dans ces âges où tu as 21, 22 ans, on est dans un mimétisme presque évident. Tu as ton premier stage, puis ton job, tu fais tes études, tu trouves quelqu'un, t'emménages.
Ouais.
Nous, on a pris le chien, on a tout fait.
Il manquait plus que le Renault Espace, quoi.
Les petits week-ends chez Ikea. Enfin bref, on fait tout comme il faut, les belles familles. Et c'est vrai qu'un jour, tu te... Enfin moi, en tout cas, un jour, je me suis réveillée. Ouais. Et franchement, je me suis rendu compte que je m'emmerdais. Mes collègues étaient super, mais honnêtement, je m'ennuyais beaucoup, beaucoup au travail. Ouais. Que Duras, qui est arrivé à cette période où j'ai dû faire un choix de thèse, effectivement, c'était un peu le choix par procuration d'une vie qui était... qui est une vie folle.
C'est un peu imposé à toi-même.
Ouais.
Quoi. Mais effectivement, ça fait beaucoup écho à la vie de Duras où t'as été en quête, en fait, de toi-même aussi. Et en fait, c'est pour ça on va spoiler ton déclic. Et en fait, c'est en préparant ta thèse que tu as eu ton déclic en fait, de cette envie de liberté et de cette recherche de toi-même. Puisqu'en fait, comme tu le dis depuis le début de cet épisode, tu n'avais jamais vraiment trouvé ta voie. C'est-à-dire qu'on t'avait dit, il faut faire telles études. Finalement, tu avais choisi celles qui te passionnaient, mais tu ne savais pas trop pourquoi tu les avais choisies. Et en fait, tu avais juste suivi un petit peu ce qu'il fallait faire.
C'est ça.
Est-ce que... Comme tu le disais, tu t'es réveillée un matin, mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça d'un coup, ou est-ce que c'est venu petit à petit où tu t'es dit, il y a un truc qui va pas, et parfois quand ça arrive, on laisse ça de côté, on se dit bon, on verra ça plus tard, et puis ça s'installe et ça devient une boule dans la gorge qui est de plus en plus grosse, etc. Comment ça s'est passé pour toi ?
Alors déjà, j'ai pas eu un stade de, j'ai pas été malheureuse et tout d'un coup, donc c'est.
T'as pas été jusqu'au burn-out, quoi ?
Non, pas du tout. Franchement, j'étais pas malheureuse au boulot, hein, c'est juste que je m'ennuyais. Mm-hmm. Mais par exemple, j'ai eu plein de petits déclics avant d'arriver à un vrai où je me suis dit, ok, là, tout est aligné. D'abord, quand on dit tu vas faire de la recherche, et ça, je pense que. Et puis, tu sais, même mes parents, finalement, ils font le mieux pour nous, mais sans toujours comprendre ce qui va se passer. Mais recherche, finalement, je me retrouvais à la BNF dans les archives, donc c'est en bas, tu sais, dans le noir. Et tous les jours, je me retrouvais devant un vieux monsieur très sympathique, hein, mais qui tous les jours était assise à la même chaise avec ses vieux manuscrits. Et je me suis projetée, je me suis dit, mais c'est l'angoisse, quoi. Enfin, toute la journée, je vais chercher en plus en littérature. Je trouve que c'est passionnant, hein, mais moi, j'avais le sentiment que j'allais pas changer le monde avec mes recherches. Par contre, j'étais passionnée par ce que je lisais, mais c'était pas un travail, une vraie conviction. Ou même dans les autres maisons que j'ai faites, c'était sympa, mais je trouvais pas les gens passionnés. Mmh. J'en croisais très peu, en tout cas. Les écrivains étaient beaucoup plus passionnés, mais les gens qui bossaient s'ennuyaient un peu.
D'accord,
Et en fait, petit à petit, j'ai commencé aussi à plus être très amoureuse. Mmh. Et il y a eu ce fameux jour où, sur mes heures de travail, j'étais en train de naviguer sur Internet. Et là, je tombe sur une annonce où c'était un poste d'éditrice de livres d'art au Vietnam. Et alors là, j'ai vu en plus Saigon, donc, qui s'appelle Ho Chi Minh maintenant.
Ouais, donc Ho Chi Minh Ville, qui est la capitale du Vietnam et qui était aussi, à l'époque, Saigon, la ville dans laquelle était établie Marguerite Duras.
Exactement. Où elle a... Enfin bref, je te raconterai, mais... Et là, je me suis dit, mais fou, enfin...
Tu crois aux signes ?
Ah bah oui.
Parce que là, c'est vraiment... Ouais. Même si tu n'y crois pas, je suis désolée, c'est l'univers qui t'a dit, bon, on va faire un truc quand même.
C'est ça. Je crois que tu as plein de petits signes, mais je crois que c'est plus l'intuition, finalement.
Ouais.
Est-ce que tu es assez proche de toi pour t'écouter et dire, ok, là, c'est qu'il se passe des choses.
Ouais. Avec Sophie, on parle beaucoup d'instinct dans nos podcasts. C'est vrai que moi, Sophie et moi, on est toutes les deux des personnes très, très instinctives et très intuitives.
Ouais.
Et on dit, répète souvent, écoutez-vous. Vraiment, nous sommes des animaux à la base. On ne va pas sentir quand il y a un tremblement de terre qui arrive. Mais disons que l'instinct parle. Pour moi, tout le monde... J'en parlais avec une copine et qui me disait, ouais, pour moi, tout le monde n'a pas d'instinct. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, tout le monde a un instinct, c'est juste que tout le monde ne l'écoute pas de la même façon.
Moi, je suis complètement d'accord. Je parle beaucoup d'intuition. Je crois que c'est la société qui brouille beaucoup, qui met plein de choses entre notre instinct et nous.
Mmh.
Et typiquement, ce qu'on doit être socialement, je trouve que ça brouille complètement les signes et les gens sont plus capables de s'entendre.
Ouais.
Quand c'est évident vu de l'extérieur, ils sont coincés, quoi.
Ouais, c'est clair. Non, mais le corps nous parle, le corps et l'esprit nous parlent. Il y a des...
Et même l'instinct se manifeste aussi par le corps. Parfois, on peut avoir une petite boule dans la gorge d'une situation, c'est pas pourquoi. C'est peut-être qu'il y a un truc qui coince. Bref. Mais, donc, justement, ton déclic, il se cristallise lorsque tu vois cette annonce.
Ouais.
Qu'est-ce que tu décides de faire ?
Et ben alors là, j'étais complètement seule avec moi-même. Et je suis quelqu'un qui aime bien être seule avec moi-même. Hein, ça, c'est aussi quelque chose. Et là, je me suis dit, allez, je postule. Beaucoup de problématiques étaient dans cette annonce. C'était une boîte anglophone.
Ouais.
J'étais super... Enfin, je ne parlais pas anglais.
Ouais.
C'était en Asie, je ne connaissais personne.
Ouais.
Mais
c'est loin.
Bah, c'est loin, voilà. Et puis, c'était pas un court durée. Enfin, c'était quelque chose...
Oui, c'était
pas un deux semaines.
Un vrai changement de vie, quoi.
Voilà. Et bah, j'ai postulé.
Ouais.
En me disant... Enfin, de toute façon, je pense qu'on me rappellera pas,
ouais,
tu vois.
Ouais, c'est le truc où tu dis, bon, ouais, bouteille à la mer. Tente. Et puis, voilà, ouais, c'est ça. J'ai rien à perdre. C'est le genre de truc où tu te dis, j'ai rien à perdre, je vais le faire.
C'est ça. Et s'il me rappelle, bah, c'est que vraiment, il y a un signe, mm-hmm, tu vois. Et bah finalement ils m'ont recontacté et là ils me disent on va faire un autre entretien et toute cette période je l'avais dit à personne,
ouais,
personne n'était au courant, mes amis, ma famille, donc vraiment personne.
Ouais, c'était ton petit jardin, c'est ton jardin secret aussi, quoi.
Ouais, je crois que j'y croyais pas trop aussi, ouais, tu vois.
Oui, parce qu'en fait si tu racontes aux autres ça devient réel et donc c'est si ça. Ça marche, si ça ne marche pas t'es obligé de les râler et quand ils te posent la question et que tu dis ah bah non finalement je l'ai pas eu, il y a un côté déceptif, quoi.
Ouais, complètement. Et du coup, j'ai fait 2 entretiens, 3 entretiens. Et là, je me suis dit, OK, là, ça devient sérieux.
Ouais.
Et 4e, c'était la blague parce que c'était un entretien en anglais, mais en
sacré
en
truc,
vidéo.
Quand même. C'était quand même un sacré job parce que 4 entretiens, c'est, ouais, beaucoup quand même. Ouais.
Bah, édition, souvent, tu sais, t'as plein de petits, ouais, des choses de correction.
Oui, d'accord,
lecture,
oui, avec des tests.
Ouais.
C'était aussi dans l'édition, pardon, je t'ai pas posé,
ouais,
la question.
Ouais. Si, dans l'édition des livres d'art, c'était chouette en plus.
Ah oui, les livres d'art, je suis con, tu as
trop
dit,
bien,
plus,
ouais. Et donc là, j'en ai parlé à une de mes amies qui m'a coachée en anglais. J'avais,
ouais,
tout préparé les réponses. Et à la fin de l'entretien, ils me disent « Bon, l'anglais, effectivement, c'est pas ça, mais tu peux apprendre vite. » Enfin voilà, j'étais prise. Et du coup, là, en 15 jours,
ouais,
ben, j'ai pris mon billet d'avion, un aller simple. Ça, c'était bizarre. J'ai... Clairement, pour le couple, je sentais que,
ouais,
c'était la fin de quelque chose.
Est-ce que cette personne, elle l'a senti aussi ? Est-ce qu'elle s'en est doutée ?
Non, pas du tout. Ça a été un peu un drame parce que, aïe, moi, je vivais ma vie en pleine liberté, effectivement, sans demander l'avis de personne.
Ouais.
Bon, moi, je trouve que c'est...
Malheureusement, parfois, il y a des dommages collatéraux. Hein, mais
ouais,
si je te demandais juste... Parce que parfois, on le sent, hein, tu sais, en tant que personne dans le couple. Est-ce que cette personne, elle n'avait rien senti venir ? Ah oui, merde.
Rien du tout. Mes parents, c'était marrant parce que pour le coup, ils ont été un super soutien.
Ouais.
Je pense que parce que j'ai été dans l'hésitation.
Tu
et...
devais avoir un petit peu peur de leur annoncer,
ouais,
aussi.
Pas leur annoncer, mais je me disais que je fais quand même, je quitte aussi finalement mon job.
Bah
enfin...
ouais. Et puis aussi la ville dans laquelle t'as grandi,
ouais,
dans laquelle ton, enfin tu vas arriver dans un pays dans lequel tu n'as pas de repères, que ce soit humain ou de repères classiques, quoi. Voilà.
Ouais. Et oui, je me sens qu'on était dans la voiture et mon père m'a dit c'est ta meilleure décision. Enfin,
ah ouais, super.
Ouais. Il a dit t'y vas et tu réfléchis pas. Et ce qui était drôle, c'est que peut-être on en parlera après, mais l'entreprise où j'ai débarqué, c'était quand même des bons mafieux.
On va en parler après, justement.
Mais ouais, donc en fait, ça a été en 15 jours, j'ai arraché le pansement, j'ai tout pris,
ouais,
visa, vaccin, etc. Et j'étais dans l'avion.
Super.
Et là, ça a été le déclic, mais ça a été un déclic aussi de comprendre. Disons que ma philosophie de la vie, elle a complètement changé à partir de là, où je me suis rendu compte que tout ce qui était safe, tous les choix qu'on nous dit de faire parce que c'est rationnel, parce que,
ouais,
c'est sûr, etc., bah pour moi, c'est pas forcément et c'est même rarement compatible avec le bonheur.
Ouais.
Je pense que c'est quand tu prends des risques, c'est quand tu vas... j'ai un truc où je me dis quand t'as peur, c'est un super signe, quoi.
Ouais.
Si t'as peur, c'est que tu vas sur... tu te rapproches de la liberté, en tout,
ouais,
cas de ta propre définition de la liberté, parce que ouais, tu sors un peu de ta cage, quoi.
On le dit, hein, s'il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'envie en même temps.
C'est vrai, c'est... ouais.
Et comment tu te sens d'ailleurs quand tu poses les pieds en arrivant à Ho Chi Minh Ville ?
Ah là, c'est fou. En fait, là, c'est un roman, ce truc du début à la fin.
Ouais.
Déjà, quand je suis partie, à l'aéroport, je suis un robot. Enfin, tu sais, je fais les trucs un,
ouais,
par un, hop. Et du jour où je suis dans l'avion, là, je comprends. Mais je suis super excitée. Enfin, je vis mon rêve durasien. Tu sais, du... je sais pas si t'es déjà allé en Asie, mais tu vois le Mekong. Non, malheureusement. C'est
bah, je devais aller au Japon en 2020.
Oh, ah, là, t'es pas...
LOL. Énorme.
2025.
Je devais faire un road trip avec Sophie entre le Washington State et l'Oregon en avril 2020. Et je devais partir au Japon en août 2020.
Grosse année.
Très belle année pour les voyages. Très, très belle année. Bah, du coup, écoute, les États-Unis ont réouvert leurs frontières à partir du mois de novembre. Donc, avec Sophie, on va reprendre nos billets pour faire notre voyage 2 ans après.
Ouais.
En prenant un maximum d'assurance au cas où ça se repasse mal, on sait jamais, mais effectivement dans l'Asie je compte y aller, mais j'ai très envie d'aller. J'avais proposé aussi à Sophie le Vietnam, parce que je sais que c'est très safe aussi pour les femmes de voyager seules là-bas, en Asie en général de toute manière, mais effectivement j'ai très très envie de mon arrivée en Asie sera le Japon, puisque c'est quelque chose qu'on devait faire avec mon copain, mais le Vietnam est sur ma bucket list aussi.
Ouais, c'est magique, enfin moi j'ai trouvé que c'était magnifique. Ma voisine d'avion, une maman vietnamienne, elle me parle en vietnamien, évidemment, je comprenais pas. On a fini par faire plein de dessins pour communiquer.
C'est génial.
Et tu sais, tout ce voyage, ça a été des choses comme ça. Elle m'a aidée à trouver le premier hôtel où j'étais.
Oui, comment t'as fait pour les logements, etc.
Ah, ouais, bah, c'était à l'instant.
On doit mouiller.
Surtout au moins cher, parce que bon, j'avais pas beaucoup de sous.
Qu'on rappelle que tu sortais tout juste d'études, finalement. Ouais, t'avais juste fait un stage. Les stages ne sont pas très bien payés non plus, je suppose encore moins dans l'édition non plus. Non. Enfin, c'est pas les stages de la finance, quoi, voilà.
Non, on n'est pas là-dedans. Et bah, remarque, je travaillais avant de partir, donc j'avais quand même pu mettre de côté.
Ouais.
Mais non, c'est vrai que j'avais pas trop de sous, donc au début, j'ai pris un petit hôtel qu'elle m'avait recommandé qui était.
Et l'entreprise ne t'avait pas du tout aidé à trouver un logement
Ils nous avaient filé des listes, mais. Ouais, non, pas trop.
C'est pour ça qu'on va en parler justement de cette entreprise, parce que généralement, quand tu te barres à l'autre bout du monde, depuis l'autre bout du monde, pour un job, bah, ton entreprise, elle est censée te fournir l'appartement qui va avec, quoi.
Ou surtout pour les premiers jours, tu sais.
C'est ça, au moins ça, où ils te disent, voilà, les 3 premiers mois, bon, bah, vous avez un logement de fonction, et puis après, vous vous démerdez, voilà, c'est dans le contrat. Là, c'est un peu chelou.
Ouais, non, c'était très chelou. Mais en fait, même avant de partir, on avait checké quand même sur Internet le site. Et en fait, tu avais un forum uniquement pour le site, d'histoires d'arnaques, de traducteurs qui n'avaient jamais été payés. Et là, je me suis dit, mais je pars quand même.
Ça fait partie peut-être des business, tu sais, de l'art, de faussaires, etc. Ou de trafic d'art aussi, hein, tu sais. Il y a d'ailleurs cette youtubeuse Charlie Danger, Revues du Monde, qui avait fait une super, super vidéo sur en fait, tout ce trafic d'art. On ne se rend pas compte à quel point ça engrange énormément d'argent. Et je crois que c'est le trafic des objets anciens et des artefacts. C'est quelque chose comme le 3e trafic du monde. En termes de sous, quoi. Enfin, c'est après le trafic de drogue et d'organes.
Bah, c'est la Mona qui a été volée, je crois, 3 fois ou je sais plus.
Ouais. D'ailleurs, Mona Lisa.
Ouais.
Et tu sais que moi, j'ai fait l'histoire de l'art et il s'avère que, en fait, Mona Lisa, la Joconde avant, c'était un tableau qui était absolument insignifiant dans la collection de Léonard de Vinci. Et elle est devenue aussi célèbre grâce à sa première tentative de vol en 1923, 26, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est le storytelling qui l'a fait connaître.
C'est ça, ouais, c'est fou. Et puis maintenant, c'est l'œuvre d'art la plus photographiée au monde. Ouais. Enfin, et en fait, avant cette tentative de vol, c'était absolument c'était un tableau comme un autre, quoi, voire même.
Oui, la trouve pas folle. Hein. C'est mon avis.
Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai profité du fait qu'il n'y ait pas encore trop de touristes pour faire le Louvre cet été. Il y avait quand même beaucoup de monde devant la Joconde, mais c'est vrai que c'est très petit. C'est le mystère qui est autour qui est intéressant. Oui. C'est pas l'œuvre en elle-même.
Comme le cri qui a été volé. Ouais.
Et du coup, et non, effectivement, peut-être que toi, tes petits copains de Ho Chi Minh Ville, ils étaient peut-être dans des choses pas très nettes.
C'est ça, le fondateur, je crois qu'il est recherché par Interpol, enfin, c'est toute une histoire. C'est un espèce de mafieux, mais c'est un Français, hein.
D'accord.
C'est un Français, alors sa boîte, tu la trouves pas en France parce qu'il a domicilié à Londres, à New York, il était que au Vietnam, tu sais. Enfin bref, c'était j'ai vécu une histoire de ma fuse qui est assez drôle.
Raconte-nous justement, parce que là, l'idée de ce déclic, c'est que tu nous racontes ce qui t'y a mené, mais aussi ton poste. Ouais. On va faire une petite quand même une petite aparté sur toute sur ta vie là-bas, et puis après tu nous parleras de tout ce que ça a déclenché depuis en fait.
Ouais.
Maintenant. Et bon, vas-y, raconte-nous les mafieux.
Bah du coup, donc j'arrive en terre inconnue. Ouais, c'est ça. Je ne citerai pas le nom, mais je pense que mes anciens collègues, on est très copains et ça va les faire bien rire. Et donc j'arrive dans une ville que je connais pas. Ouais. Le Vietnam, c'est fou, ça fourmille. Enfin, je veux dire, les cinq sens, ils sont ultra développés là-bas, ouais. Sollicités. Et je perds mon passeport en arrivant, je le retrouve, après je perds mes clés. Enfin, j'étais paniquée, j'arrivais, ouais. C'était la première fois que j'allais vivre à l'étranger.
Oui, encore une fois, il faut rappeler que tu étais quand même jeune, quoi. T'avais quoi, t'avais 22 ans, 23 ans.
Ouais, c'est ça.
C'est jeune hein, quand même pour tout plaquer et se barrer à l'autre bout du monde. Ouais. Parce que généralement, quand on fait ça, c'est qu'on est en stage.
Erasmus,
voilà, on est Erasmus ou en stage en VAE, je ne sais plus comment on appelle ça.
Ouais, VIE.
VIE, voilà.
Ouais. Bah ouais, du coup, moi, j'ai fait ça. J'arrive dans mon petit hôtel et j'étais tellement flippée que le premier jour où je suis arrivée, je suis restée dans ma chambre d'hôtel à regarder par la fenêtre et à me dire « Mais t'as l'impression de te perdre dans cette ville en plus. » Bon, finalement, le lendemain, je prends courage, mon petit sac à dos, je fais pas très loin, hein, mais je fais le tour du quartier.
Ouais.
Bref, en tout cas, je découvre mes collègues qui, ça, c'était la meilleure partie. C'était international, on avait tous à peu près le même âge.
Vous étiez nombreux ?
On était, je pense qu'on était une quinzaine d'éditeurs. D'accord. Et après, t'avais les designers.
Ah oui, c'était quand même une grosse boîte.
Ouais, hein. C'était une grosse boîte, hein. Ouais, ouais, une grosse boîte de mafieux. Et, et en gros, j'arrive le premier jour. Là, tu rencontres un peu l'équipe. Mm-hmm. Et là, je vois une énorme bibliothèque d'art. Et je fais, oh, c'est génial. Et je vois mes collègues allemands qui rigolent en me voyant. Et je prends un livre et là, j'ouvre. Toutes les photos étaient découpées. Il n'y avait pas d'image dans les livres. Ouais. En fait, comme ils ne voulaient pas payer les droits aux musées ou aux collections, ils nous faisaient acheter les livres d'art des concurrents. On devait découper les photos, les scanner pour ensuite les remettre dans nos livres.
C'est incroyable. C'est ingénieux dans la connerie, quoi.
C'est ça, je disais, c'est dingue.
Je me dis, le mec, un jour, il était dans son pieu et il s'est levé d'un coup, il fait « Putain, j'ai la solution !»
Le truc complètement fou, et je me souviens qu'à chaque fois qu'il me disait « Bon, bah va falloir découper le Chagall ou je sais pas quoi », je disais à « Jamais je découperai un livre ». En fait, en plus, moi, c'est un truc, c'est sacré, les livres. Enfin, donc c'était tout un débat. Rapidement, on comprend, je suis arrivée avec Katharina, une collègue autrichienne, qu'on est arrivée vraiment dans le nid de la mafia. Et puis, tout continuait, des histoires drôles. Tu pouvais pas nous trouver sur Internet. Et en fait, il n'y avait rien écrit. Donc, le premier jour, on ne trouvait pas le bureau. Ouais. Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas que les gens viennent jusqu'au Vietnam pour demander leur argent. D'accord, ou putain. Les trucs. Donc, c'était des gens de porte en verre, code. On n'avait pas de téléphone. On n'avait pas d'email à nos noms. C'était des emails email1@lenomdelaboite.com, comme ça. Mais c'était des trucs. Du coup, nous, on recevait les mails des anciens. Enfin, c'était... mais aujourd'hui, on est tous très proches, tous ces anciens collègues, et on en rigole. On dit qu'on a vécu quand même un truc de fou,
une
espèce de boîte de mafieux au Vietnam. Et les livres étaient beaux et distribués partout. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est qu'aujourd'hui, je crois que ça a pu très bien.
Ouais.
Parce qu'en partant, il y avait Interpol sur l'affaire, mais voilà.
Oui, généralement, c'est que ça pue.
Ouais, mais j'ai appris plein de choses. Et surtout, j'ai pu travailler avec des designers. Enfin, c'est les DA, celles qui font les montages. Ouais. Vietnamiennes et qui étaient, moi j'ai trouvé qu'elles étaient incroyables. Mmh. Enfin, elles m'ont beaucoup appris, elles bossaient super bien.
Et donc là, t'as un peu plus pu toucher un peu à tout.
Ouais, exactement.
Contrairement que chez Gallimard.
Là-dessus, je peux rien dire, j'ai vachement appris. Ouais. Je suis devenue fluente en anglais en semaines déjà, tu parles super bien.
C'est ça, oui, bah quand t'as pas le choix de toute manière.
Ouais.
Y a pas de. Puis en plus, y a pas de regard de l'autre. Tu étais la seule française ?
Bah, il y avait deux autres françaises, mais pour le coup, je me suis vraiment poussée. J'ai fait une coloc qu'avec des Vietnamiens qui parlaient anglais. Mes potes, c'était pas les Français. J'avais un mini dico, tu sais, français-anglais.
Ouais.
Je sais pas, non, mais les premiers jours, tout le monde se moquait de moi. J'étais à la rue à chercher corner, alors chercher rue. Enfin, c'était la blague. Et j'arrêtais pas de dire what's the word. Et ils disaient what do you want to say. Enfin, en fait, ils s'en foutent du vocabulaire. Et très vite, j'ai compris qu'il fallait parler. C'était aussi expliquer les choses. Donc, après, super expérience. Et j'ai vécu vraiment les meilleures années.
T'es restée combien de temps au Vietnam, du coup, après ?
Alors, parce qu'après, j'ai fait un petit tour de l'Asie.
Ouais.
Je crois qu'en tout, j'ai dû rester peut-être 8 mois.
Quand même, ouais.
Ouais. Je serais bien restée plus.
Et donc, t'es restée pas si longtemps que ça, finalement, dans cette entreprise ? Parce que 8 mois comprend aussi le tour de l'Asie, un petit peu ?
Ouais. Non, mais en fait, au début, pour tout te dire, j'avais dit aux gens que je partais 3 semaines.
Oui, donc ça s'est transformé facilement en 6 mois, quoi.
Voilà, 3 semaines, j'ai dit finalement, je ferais bien l'été là-bas. Ouais. Et en fait, je suis tombée amoureuse, moi, du Vietnam, ouais, complètement.
Tu y es retournée depuis ?
Non. Et ça, c'est... on commençait à réfléchir à y aller, justement, mais il y a eu le Covid.
Ouais, bah ouais.
C'est un peu notre prochain voyage, mais c'est justement de mes collègues qui est retourné. Il m'a dit, c'est le plus d'émotions que j'ai eues, quoi. Enfin,
ouais.
C'est très, très beau, le Vietnam.
Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'aimerais beaucoup y aller aussi. Et comment tu es rentrée, du coup ? Comment t'as senti ? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit... Comme t'as suivi à chaque fois ton instinct dans ce récit, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, bon, bah, il est temps de rentrer ? Je sens qu'il est temps de rentrer.
Ouais. Bah, en fait, en réalité, moi, je serais restée, mais voilà, il y a une rupture.
Ouais.
Et du coup, il y avait toute cette vie bien bâtie avant. Ouais. Quand ça se déconstruit, c'est un peu chiant. Mmh. Donc, il a fallu faire le déménagement.
Ouais.
Mon chien chéri, du coup, il a été placé chez ses grands-parents, chez mes parents.
il est toujours en vie ?
Ah oui, oui. Heidegger. Il s'appelle Heidegger.
C'est quoi comme chien ? C'est quoi comme modèle ?
C'est un cocker anglais.
Ah ouais, trop chou.
Ouais, il est trop sympa. Très intelligent. Et du coup, je suis un peu rentrée sous la contrainte. Et
d'accord.
Ça, en partant, je me suis dit, je ne regretterai pas parce que sur le coup, je n'avais pas le choix.
Mm-hmm.
Mais instinctivement, je serais restée plus longtemps,
d'accord,
ça,
ouais,
c'est sûr. Et je suis rentrée, autant dire...
Tu étais un peu rattrapée par les obligations, quoi.
Voilà.
T'as été rattrapée par ta vie en France qui t'a rattrapée par le col en mode
bidon, ouais, toi. C'est ça. Alors là, autant dire, je suis rentrée, ça a été le chômage,
ouais,
la rupture.
T'as pas trop déprimée ?
Bah, en vrai, le retour a été très rude parce que, en plus, tu pars, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais déconstruit.
Ouais.
Et en même temps, c'était pour le mieux, mais... j'ai eu quelques mois compliqués, enfin compliqués, voilà, j'ai vécu une rupture.
Ouais.
Mais
d'ailleurs, quand t'étais au Vietnam, ça allait tout bah, ça, c'est... ce côté rupture
C'était chaotique.
Ouais.
Et le jour où on a décidé que c'était fini, là, je me suis dit, bon, faut que je rentre, faut pas fuir constamment tout, il y a quand même 4 ans de relation.
Moi, je pensais que tu avais largué cette personne
non.
avant de partir.
Non, non.
D'accord.
Ouais, j'étais jeune, je l'ai pas joué très fair play, voilà. Et
c'est pas facile, tu disais, ça c'est 4 ans.
Oui.
C'est difficile, hein.
Ouais.
Et puis ouais, du coup, elle t'a attendu, etc. quoi.
Ouais.
Ouais.
C'est ça. Et du coup, je suis rentrée. Donc effectivement, des mois pas faciles, mais finalement, j'étais aussi dans le... Tu sais, quand tu rentres d'Asie, on a beaucoup qui disent que t'as un petit choc quand même de retour
oui.
à la culture. Et très vite, j'ai compris que j'étais... Enfin voilà, en fait, j'avais eu un déclic et que j'étais plus faite pour rester dans des cadres.
Ouais.
Et donc, très vite, je suis repartie au Canada. En fait, mon retour, ça a été fermer dossier pour repartir au Canada.
T'es partie combien de temps au Canada ?
Là, 2 ans.
D'accord,
donc
ouais.
un peu plus longtemps. Et aussi, enfin, à partir du jour où j'ai eu ce déclic que je suis partie au Vietnam, j'ai en fait compris que j'étais capable de beaucoup de choses. Que dès que j'avais envie de tester, que je voyais un petit signe, je plongeais et il y avait souvent du succès à la suite, même
ouais.
si t'as plein de petits échecs avant ça, et que je vivais mes plus belles années dans cette forme de liberté qui n'est pas acceptée de tout le monde. Il y en a qui trouvent ça dangereux, que ça fait un peu frivole, que tu changes
ouais.
constamment, mais en fait, dès que ça ne va plus ou dès que je vois une opportunité qui me passionne ou que je sens que c'est le moment, je peux tout plaquer et partir, quoi.
Et t'as un peu devancé ma question, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, à part, en fait, la compréhension que tu es capable de faire ça,
ouais.
que tu es capable de recommencer, de voir que c'est ce qui te fait vibrer. Parce qu'il y a des personnes qui, comme toi, il y a des personnes qui vont être comme toi, mais qui vont avoir besoin d'être constamment en recherche, en fait, d'ailleurs.
Oui.
Mais toi, par exemple, en ce moment, t'es établie à Paris depuis
ouais.
quelques temps,
ouais.
et ça se passe très bien, t'es heureuse, etc.
C'est ça.
Je suppose.
Oui, oui, très heureuse. Non, c'est bah t'as tout compris. En fait, c'est plus qu'est-ce que ça a changé, c'est que vraiment je m'écoute
ouais.
et je pense que ça m'a rendue assez courageuse où je n'écoute que moi. Alors évidemment, je suis en couple, donc ça prend aussi en considération maintenant pour le coup
ouais.
L'autre, mais déjà je trouve qu'en couple ça reste deux individus et qu'il faut savoir
bien
s'écouter
sûr.
Quand il y a un besoin d'un côté, l'autre doit suivre. Mais je me sens vachement plus courageuse et j'ai compris que la liberté, elle n'avait pas de prix et que le système social qu'on nous vend, en tout cas en France, ben, alors pour le coup, je suis en couple, mais j'ai aussi vachement déconstruit tout ça. Ben, en fait, ça ne nous rend pas heureux, ça ne nous rend pas libres. Et autour de moi, j'ai encore beaucoup de gens qui, je trouve, sont enfermés et n'ont pas fait les choix qu'il faut. Et on se définit par nos choix. Et pour moi, la liberté, c'est le choix ultime.
Et choisir, c'est renoncer. C'est ce que je dis. Moi, c'est mon credo, personnellement. C'est de toujours avoir... c'est pas quelque chose qui est pessimiste pour moi de dire ça, mais c'est quelque chose que je dis souvent, c'est qu'en fait, tout choix entraîne des conséquences.
Ouais.
Et donc, effectivement, en faisant un choix de confort, tu renonces à une certaine forme de liberté.
Oui.
En choisissant une certaine liberté, tu renonces à un certain confort.
Exactement.
Un confort financier, un confort familial, un confort... d'appartements, de ce genre de choses, etc.
Ouais, exactement. Et je pense aussi qu'il y avait... aujourd'hui, on y vient, mais en tout cas, à mon époque, tu avais ce truc de tu peux pas faire trois carrières dans ta vie. Enfin, ouais, tu as un job et tu restes, et après, tu montes les grades. Et après, en entretien, c'est facile. Moi aussi, le retour en France, c'est que je me suis dit, OK, là, il y a un truc, c'est que Canada, ils étaient super open, tu peux te réinventer.
Qu'est-ce que tu as fait d'ailleurs là-bas? Tu étais toujours dans l'édition?
Non, j'étais agente d'artiste.
Ah, génial.
J'ai complètement changé de voie. Et en même temps...
Tu restes un petit peu toujours dans le milieu artistique.
Et humain.
Ouais, propulsion de personnes aussi. Enfin, dans l'édition, tu propulses aussi des écrivains.
Ouais, c'est ça. Et là,
l'accompagnement, quoi.
Et en plus, j'avais découvert, on avait pas mal de types, mais c'était assez jeune et c'était beaucoup des youtubeurs, mais c'était le début. T'avais des podcasters, c'était aussi les débuts là-bas. Et en fait, je me suis dit, ces gens sont ultra créatifs, quoi. Ouais. Ils sortaient des livres, faisaient des films. Enfin, après, tu touchais à tout. Et Canada, ça a été une très belle expérience et je le recommande beaucoup aux jeunes qu'on a parce qu'ils sont très ouverts d'esprit.
Ouais.
Professionnellement, vraiment, l'idée de se réinventer, c'est valoriser.
Oui, mais c'est vrai qu'on critique souvent la France là-dessus. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait faux qu'en France, on est beaucoup dans les cases. On a d'autres très bons comptés, mais effectivement, d'un côté professionnel, donc je trouve qu'en France, on est très dans les cases où on a du mal à accepter qu'une personne puisse faire différentes choses. Ça se voit notamment sur les célébrités. Tu prends un truc con,
mais
regarde les célébrités qui ont fait plusieurs carrières, qui ont été chanteurs, acteurs. En France, il n'y en a pas beaucoup.
C'est vrai.
Tu vas voir Patrick Bruel, Virginie Efira, qui a fait de la télé puis du cinéma.
Ouais.
Mais dès qu'il y a un nouveau, et même moi, hein, j'en fais partie, mais dès qu'il y a un nouveau chanteur ou un nouvel acteur qui s'essaye à autre chose, on a tendance un peu à lui tirer dessus.
C'est vrai.
Tu vois, et alors qu'aux États-Unis, on est quand même dans. Donc la culture américaine, nord-américaine, donc, qui découle aussi sur le Canada, il y a quand même eu une ancienne star de cinéma qui a été président. C'est vrai qu'il y a une valorisation effectivement du changement et du on n'est pas qu'une seule personne, quoi.
Ouais, et puis en plus, ça c'est ma vision de la chose, mais je pense que des personnes qui sont capables de se réinventer et d'avoir un succès en plus dans toutes ces réinventions, c'est pour moi une forme d'intelligence rare.
Ah bah effectivement.
C'est des gens qui ont développé...
C'est un caméléon comme ça.
Ils appellent ça le multitasking, qui est très valorisé et je me souviens que j'avais... On avait reçu un CV, c'était un pâtissier qui voulait être DA en prod et moi j'avais halluciné, tu vois. Et on m'avait dit, pourquoi pas
Et c'est vrai qu'en fait, nous, on voit ça comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut.
Oui.
Et aussi, on a cet adage qui dit, en fait, si on est bon partout, on est bon nulle part.
Exactement.
Ça peut ne pas être faux, mais il ne faut pas non plus rester uniquement sur ce credo-là.
Moi, je pense que c'est des gens curieux, c'est des gens qui s'essayent, c'est des gens qui forcément vont développer des formes d'intelligence à plein de niveaux. Et là, je trouve que les plus jeunes générations, ils sont un peu plus les dents.
Ouais.
Donc, ça va sûrement s'assouplir. Mais pour le coup, moi, quand je suis rentrée, j'ai fait le choix de m'écouter, de toucher au métier que j'avais envie, de tout changer, etc. Mais en rentrant en France, je me suis dit, je me ferme des portes. Et du coup, j'ai dû apprendre à me raconter. Parce que pour le coup, quand on voyait mon CV, ça faisait...
J'ai fait un peu de
tout. Où vas-tu ?
J'ai fait un peu tout et rien.
C'est
quoi.
Ça. Du coup, j'ai appris. Et c'est là, mine de rien, que j'ai commencé un peu... Le storytelling que j'appliquais déjà aux artistes, c'est finalement, c'est toi qui donnes du sens à une histoire. Donc, la manière dont tu vas raconter un parcours, ça n'a pas de prix. Et finalement, c'est là-dedans que tu crées de la cohérence.
C'est vrai. Et comment tu te sens aujourd'hui ? Est-ce que tu es heureuse dans ta vie ? Est-ce que tu es contente ?
Oui, je suis très heureuse dans ma vie. Je suis encore persuadée que je vais avoir 1000 vies.
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que tu vas... pas forcément bientôt, mais revivre une nouvelle aventure comme ce que tu as vécu à Saigon, enfin au Chiminville
ou au Canada ?
Bah, là, en tout cas, sur le nouveau poste que j'ai, ce qui me plaît, c'est que je peux toucher à tout. Donc, ouais. D'une certaine manière, je me réinvente. D'ailleurs, ça fait rire les équipes, mais je dis aujourd'hui, je suis commerciale. Aujourd'hui, je suis market. Là, je fais pas. Donc, finalement, là, j'ai cette liberté où je peux vraiment toucher à tout. Bah, toi aussi, ouais. Je pense. Et
complètement, c'est vrai que c'est quelque chose où j'aurais du mal à retourner dans la vie dans salariale.
Dans un poste. Ouais.
Ouais, exactement, ouais, tout à fait.
Même tes emplois du temps, moi je l'ai fait. Il y a des jours où tu te sens plus ou moins créatif, il y a des jours où tu es plus calme, des jours où tu as plein d'énergie et finalement je change de casquette de poste selon. Donc c'est encore une fois une grande liberté.
Ouais.
Donc là-dessus, je me sens vraiment bien et puis assez installée. Après, je sais qu'un jour, je pense que je referai à l'étranger, on en parle, parce que pour le coup, là, donc, je suis en couple avec une fille qui a vécu 10 ans à Londres.
D'accord, donc elle aussi, elle a le goût du voyage et de l'expatriation.
Et pour le coup, elle parle mieux anglais que français, elle est plus à l'aise dans la culture anglophone, donc on sait qu'un jour, on retournera dans un pays anglophone, mais peut-être plus en Europe cette
d'accord,
fois.
D'accord, ouais.
Voilà, parce
donc
que...
l'Angleterre.
Ou la Hollande.
Ouais, plus, ouais.
Ouais,
peut-être à sympa. Voir.
Danemark, Berlin, finalement, moi aussi j'adore. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Et en rigolant, maintenant que j'ai pris ce truc où je me dis je peux faire ce que je veux,
ouais.
S'il y a de la passion, finalement, tu peux arriver à tes fins. Eh bien, on rigole, mais je me dis qu'un jour je serai peut-être maire d'une ville.
C'est génial. Mais en plus, moi, c'est une réflexion qui me vient aussi, c'est qu'avec avec ce genre de réflexion, ça te permet aussi, toi, d'être plus compréhensif avec la personne avec laquelle t'es. Si elle a aussi un jour envie de tout plaquer,
oui.
Tu lui diras, bah go, en fait, moi aussi, je te suis.
Exactement.
Quoi.
Et moi, je pousse hein, les gens autour de moi quand ça va pas et je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Et ils te sortent toujours des trucs un peu safe. Je dis, non, mais si on... Et en fait, ils te sortent des trucs...
Qu'est-ce qui te fait vibrer ?
Ouais. Et même un jour, ma sœur m'avait dit j'aimerais bien devenir cuistot. Et c'est vrai qu'elle est très forte en cuisine. Et je vais remettre le sujet sur la table parce que je pense que tu peux vraiment te réinventer encore plus aujourd'hui.
C'est clair. Et ben, je te remercie beaucoup, Lauraline. Merci beaucoup pour cet épisode hyper inspirant, pour tous ces jolis mots et ce beau parcours.
Merci.
On te retrouve la semaine prochaine dans l'apéro. Parce que, alors toi, tu fais le grand chelem 18h17 aussi. On te retrouve la semaine prochaine dans l'apéro. Et on te retrouve dans 3 ou 4 semaines dans ta chanson. Parce que tu veux aussi participer à la chanson.
Mais je ne chanterai pas.
Lauraline, on se retrouve la semaine prochaine dans ton apéro. Et puis, au revoir.
Au revoir, Juliette.
En te souhaitant une très belle soirée.
Merci, toi aussi, Juliette.
Bisous, Auréline.
Bisous.
Merci d'avoir écouté le déclic de Auréline. Si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en nous mettant 5 étoiles sur votre appli de podcast préférée et en nous laissant un gentil commentaire. N'hésitez pas à découvrir nos autres formats, la chanson et l'apéro. D'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine avec Auréline et son collègue Quentin pour un épisode de l'apéro plein d'incroyables anecdotes. À la semaine prochaine!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.